journal de 18h. Jean-Mélène Betty.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 18h au menu de cette édition. 36 milliards de francs CFA, c'est le budget du ministère d'État, ministère de la fonction publique, adopté à l'unanimité par les députés, membres de la commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. On en fait le point dans cette édition. L'administratrice des petites entreprises des États-Unis, Isabelle Guzman, a séjourné en terre ivoirienne du 7 au 8 novembre 2023. Au menu de sa visite, expliquer la politique entrepreneuriale des États-Unis en faveur de la Côte d'Ivoire. Et puis, enfin, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa décide de mobiliser l'armée pour lutter contre les activités minières illégales. Voici pour l'essentiel. Ouvrons cette édition avec les activités du Parlement ivoirien. Le projet de budget du ministère d'État, ministère de la fonction publique, qui est de 36 milliards de francs CFA, a été adopté à l'unanimité des députés, membres de la commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. C'était ce mercredi 8 novembre 2023 à l'hémicycle. Les députés n'ont pas manqué de féliciter Anne Ouloto pour le travail qu'elle a bas au niveau de son département ministériel. Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique, s'est adressé à la presse après l'adoption de son budget.
Je voudrais très sincèrement remercier le président de la commission des affaires économiques et financières et l'ensemble des membres de cette commission pour la qualité des échanges que nous avons eus. Je suis particulièrement heureuse parce que ces échanges m'ont donné l'occasion de partager avec eux la vision du gouvernement en matière de gestion de cette fonction publique ainsi que de la modernisation de notre administration. Nous avons également parcouru l'ensemble de nos difficultés dans le cadre de la gestion des ressources humaines de l'État. Nous avons partagé également nos difficultés au niveau de la gouvernance et des défis. Nous avons parlé des défis que nous avons à relever. Je suis particulièrement heureuse parce que j'ai vu dans la qualité des échanges que nous avons eus comment nos députés sont sensibles aux actions qui sont menées chaque jour, combien nos députés sont sensibles aux préoccupations de nos populations. Mais je voudrais également saluer le bon accueil qui a été fait des mesures prises par le gouvernement, des réformes en cours et de nos ambitions à améliorer le cadre de vie, le cadre de travail des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, à faire en sorte que nous ayons une administration publique moderne et performante. Je ne suis donc pas surprise que les députés de cette commission aient à l'unanimité choisi d'accompagner le gouvernement dans son ambition. Et je suis fier de notre Assemblée nationale.
À l'instant, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, interrogée par Junior Cardin. Plus d'un millier de jeunes filles et garçons bénéficient à ce jour du programme jeunes du gouvernement ivoirien, programme initié dans le cadre de l'année de la jeunesse et qui se tend sur 3 ans, à savoir 2023 à 2025. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique en a fait un bilan partiel ce mercredi 8 novembre 2023 à Yamoussoukro. C'était à la faveur d'une session plénière d'adoption du Sénat ivoirien d'un projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse. Le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, dans des propos recueillis par Émile Yao.
Pour cette année, vous avez déjà près de 309 000 jeunes qui ont été impactés dans les programmes de formation, d'insertion professionnelle, d'emploi, de stage et autres. Vous avez un peu plus de 421 000 jeunes qui ont pu accéder au programme de permis de conduire. Vous avez 111 000 jeunes qui ont bénéficié donc de bourses et de secours financiers, que ce soit en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire. Près de 4 millions de jeunes sensibilisés contre certains fléaux, l'alcoolisme, la drogue, etc. L'agora d'Abobo qui a été livrée, l'agora de Giglo, de Touba, de Dimokro en cours de construction, le centre de service civique de Boaké qui a été construit et achevé, celui de Daloa, d'Adzopé et de Korogo en cours de construction, les piscines olympiques de Benjéville totalement innovées, d'autres piscines olympiques en cours de construction. D'ailleurs, pendant ce mois de novembre, nous allons faire un bilan public sur toutes ces initiatives, mais surtout en mettant en évidence ces jeunes qui ont été bénéficiaires. Donc l'année 2023 est cette année de la jeunesse, mais le programme qui a été adopté par le gouvernement au mois de mars est sur 3 ans, 2023-2025. 2025. Donc cette année, c'est l'année de l'amorce, mais avec déjà des résultats probants obtenus. Nous passons en vitesse supérieure dès l'année prochaine. Et je voulais profiter de cette tribune pour dire aux jeunes, ceux qui sont encore en attente de perspective, que le programme jeune du gouvernement, c'est 2023-2025, avec pour objectif d'impacter 1 500 000 jeunes à l'horizon 2025.
Nous écoutions à l'instant le ministre Mamadou Touré au micro de notre correspondant sur place. Restons toujours dans la même veine. La jeunesse est l'une des priorités de la Fondation politique allemande Friedrich Naumann, qui compte accentuer ses actions autour de 6 nouveaux objectifs spécifiques que sont notamment la sécurité, la migration, le genre, le développement durable et le changement climatique. C'est ce qu'a fait savoir sa directrice Afrique de l'Ouest et représentante pays en Côte d'Ivoire lors de la conférence de presse qu'elle a tenue le mardi 7 novembre 2023 à Abidjan, Cocody, Danga. Suivons le compte-rendu avec vous, Jean-Claude Mabéa.
Après avoir salué leur bonne collaboration avec la Fondation Bakary Diaby de la CADA, la Coordination africaine des droits de l'homme et des armées a mis l'accent sur les défis à relever, non sans faire des suggestions.
Les élections de 2025 pour nous constituent un défi majeur en ce qui concerne la sécurisation du processus électoral, mais aussi la formation des hommes pour la sécurisation de ce processus, pour la stabilité, pour la lutte contre le terrorisme et également pour la promotion du genre au sein des forces armées. Et nous espérons être accompagnés par vous.
Yapi Léonce Adon, le directeur chargé d'études et perspectives au CNDHCI, en a fait de même.
Aujourd'hui, quand vous discutez avec les hommes politiques, tout le monde se prépare pour 2025. Or, le malheur en Côte d'Ivoire, c'est qu'on utilise les jeunes comme bras armés. Et donc, pour nous, il est nécessaire que, à partir de 2024, que la formation soit accentuée sur la jeunesse.
Et la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann, qui dit s'inscrire dans la continuité de ses prédécesseurs, a tenu à rassurer les partenaires nationaux en ces termes. Alexandra Elt.
À mon avis, une des clés pour rendre la région plus sûre, c'est justement d'adresser le problème de la jeunesse, du manque d'éducation, du manque de perspective, une des clés délaissées jusqu'à présent.
Installée en Côte d'Ivoire depuis 1989, la Fondation Friedrich Naumann travaille sur les principaux thèmes que sont la politique, les droits de l'homme et l'économie en Côte d'Ivoire.
Une note politique dans ce journal. Depuis le 23 octobre dernier, l'on assiste à une valse à la tête du parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire. Selon Jean-Gervais Tcheidé, nouveau secrétaire général du PPACI, ces chamboulements répondent à un souci de rotation des cadres de ce parti. Pour mener l'ultime bataille, celle de réunir les conditions d'une élection juste et transparente en Côte d'Ivoire. Écoutons Jean-Gervais Tcheidé, secrétaire général du PPACI.
Il faut déjà savoir que un grand parti politique comme le nôtre procède de temps en temps à ce qu'il est convenu d'appeler la rotation des élites. Et donc, c'est un événement tout à fait ordinaire.
Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui pensent que c'est à la suite de la débâcle à l'élection régionale et municipale que le président a dû régler des comptes?
Je vais vous dire, le président Gbagbo était encore à Bruxelles, lorsque son parti en Côte d'Ivoire a remporté 18 sièges à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il rentre en Côte d'Ivoire et donc normalement, on devrait gagner encore plus. Donc, si nous avons les résultats catastrophiques que vous voyez, ce n'est pas parce que les hommes qu'il a placés sont pas bons, ce n'est pas parce que le système qu'il a mis en place n'est pas bon. La raison principale, et chacun peut le constater, c'est la fraude massive qui a été organisée pour faire croire que le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire et que son parti ne représentait rien sur le terrain. Donc nous sommes des démocrates, nous disons la vie politique ne s'arrête pas à une élection. À quelque chose, malheur étant toujours bon, l'adversaire a montré sa capacité à tricher sous toutes ses formes. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous, ayant vu ce qui s'est passé, de mieux nous organiser encore et de prendre les mesures qu'il faut pour mener la mer des batailles, c'est-à-dire la bataille pour des conditions d'élection justes et transparentes. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin.
C'était à l'instant Jean-Gervais Tcheidé, secrétaire général du PPACI. Il a été joint par Constant Maïlé. Renforcer les relations bilatérales entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire au travers de l'entrepreneuriat, c'est l'objectif qui motive la visite en Côte d'Ivoire de l'administratrice des petite entreprise des États-Unis, Isabelle Guzman. Mandatée par le président américain Joe Biden, elle a effectué mercredi 8 novembre 2023 une série de visites pour réitérer l'engagement du gouvernement américain en faveur du développement entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Compte rendu, Mel Emmanuel Amani.
C'est à Digifarm Sisako Kodiatoban à 10h30 que s'est ouverte la série de visites et de séances de travail de l'administratrice des petites entreprises des États-Unis, Isabelle Guzman. Accompagnée de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, Isabelle Guzman a rencontré des bénéficiaires des formations issues des différentes composantes de cette structure qui œuvre au développement de l'esprit entrepreneurial chez les femmes. 15h, commune du Plateau. Au programme, des séances de travail avec successivement le ministre du Commerce et de l'Industrie, celui de l'Agriculture et du Développement Rural, et enfin, avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Une opportunité pour l'État ivoirien de penser à l'avenir des petites et moyennes entreprises. Robert Begré-Mambé.
La chance que nous avons de vous rencontrer aujourd'hui, c'est d'envisager un développement de la coopération qui va nous permettre de donner toute la place qui revient au secteur privé à travers les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire.
Également, Isabelle Guzman a pu, au terme de cette journée, s'imprégner des réalités entrepreneuriales de la Côte d'Ivoire.
J'ai découvert un environnement entrepreneurial remarquable. Le président Joe Biden avait exprimé sa volonté de voir le renforcement des liens de coopération entre les États-Unis et les États de l'Afrique de l'Ouest. Cela passe par des actions telles que l'innovation technologique et le développement des entreprises dirigées par les femmes et les jeunes qui susciteront la richesse et le développement de nos pays.
Notons que la visite d'Isabelle Guzman est la première d'un administrateur des petites entreprises des États-Unis en Afrique de l'Ouest.
La qualité Made in Côte d'Ivoire sera au cœur d'un forum à Abidjan du 22 au 26 novembre 2023. Il s'agit de la deuxième édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire FOMSI 2023, une plateforme pour la promotion de la production, la commercialisation et la consommation des produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Aimé Coisin, par ailleurs coordonnateur général de la FOMSI, était l'hôte de la tribune d'échange et d'information Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale. CICG. Les détails avec Mata Touré.
Cette seconde édition de la FOMSI s'inscrit dans le cadre de la promotion du secteur privé en vue de son développement aussi bien au plan national qu'à l'international. Cet événement revêt une importance pour l'économie ivoirienne parce qu'elle vise à promouvoir les produits fabriqués ou obtenus en Côte d'Ivoire. Les produits manufacturés permettent aujourd'hui au pays de satisfaire les besoins de la classe moyenne émergente estimée à 30% et d'exporter le reste à hauteur de 8,8% selon la Banque mondiale. Aimé Coisan est coordonnateur général de la FOMSI.
Dans tous les secteurs d'activité qui effectivement fabriquent ou transforment les produits issus donc du terroir local, que ce soit donc dans l'artisanat, que ce soit dans l'industrie manufacturière, tout ce qui est le produit pharmaceutique, toutes ces entreprises-là sont éligibles au Made in Côte d'Ivoire. Ils sont éligibles à la foire du Made in Côte d'Ivoire et nous leur ouvrons grandes les portes. C'est pour cela que depuis 6 mois, le 15 mai, que nous avons procédé au lancement officiel de la foire du Made in Côte d'Ivoire, je peux vous assurer que nous nous sommes adressés à l'ensemble du portefeuille des entreprises installées en Côte d'Ivoire.
La tenue de ce rendez-vous d'affaires s'inscrit dans le prolongement de la politique industrielle élaborée par le gouvernement de Côte d'Ivoire au sortir de la crise et dont l'objectif est d'accroître de manière significative la contribution du secteur industriel à la création de richesses et d'emplois décents et durables.
D'Abidjan, rendons-nous à Divo et parlons des sécurités routières où, à l'occasion de la journée médiatique de la semaine de la sécurité routière tenue ce mercredi 8 novembre, l'association des auto-écoles du Lodibois a appelé l'État à imposer le permis de conduire aux conducteurs de tricycles majoritairement composés de mineurs. Ils provoquent des accidents par méconnaissance du code de la route. En ligne de Divo, notre correspondant régional Abel César Cassin pour plus de précisions.
Au cours de cette 10e sensibilisation qui s'est déroulée à l'immense carrefour de la préfecture de Divo, dont les feux de signalisation ne fonctionnent plus, le contrôle est porté sur le port du casque, de la ceinture de sécurité sur tout le transport, de passagers en surnombre. Suivant la mise en garde du secrétaire général de préfecture de Divo, Gueye Afoué-Jeannette, à un transporteur.
Vous n'êtes pas en règle, vous êtes en surnombre. Et puis il y a le camion, mais cherchez à vous mettre en règle. Il faut le verbaliser.
Le directeur départemental des transports Sport de Divo, Jean-Yves Messé, ne se montre pas découragé.
Avec les 14 105 personnes sensibilisées à ce jour, on devrait avoir un impact vraiment grand sur la population. Mais c'est lent. Et c'est lent parce que les disciplines, les civismes sont très enracinés. Je dirais que ça va prendre un élan. dans l'avenir, mais ça ne me décourage pas.
La gérante de l'association des auto-écoles du Lodjibois, Bernadette Kongoza, fait une observation de taille sur les conducteurs des tricycles.
Il y a beaucoup de mineurs qui sont sur les tricycles. Ils n'ont pas de permis de conduire. La conséquence est que les accidents sont dramatiques. Les accidents sont mortels sur les tricycles. Vraiment que l'État nous aide à ce que vous conduisez un tricycle, les gens aient le permis de conduire.
A noter que la direction départementale des transports de Divo ne dispose pas de véhicules pour étendre la sensibilisation à toutes les localités de Lodjibois sous sa compétence. De Divo à Belle, César Cassin, Radio de la Paix.
De Divo, rendons-nous à Odiéné où Kone Boakari, directeur régional des transports pour les régions de Kabadougou et du Folon, a profité de cette 10e semaine de sécurité routière pour inviter les chauffeurs de taxi-moto d'Odiéné à incarner l'esprit du civisme en cette veille de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il a invité les taxi-moto à se préparer à porter les maillots pour mieux servir les nombreux sportifs qui viendront assister à la CAN. En ligne d'Odiéné, Bakary Touré Labas, notre correspondant dans le district autonome du Dinguélé.
CAN 2023, la vitrine de la Côte d'Ivoire à l'étranger, telle est la volonté affichée par le directeur régional des transports des régions du Kabadougou-Folon au cours de la présente semaine nationale de sécurité routière. Kone Boakari.
Nous sommes la plus grande ville en venant de la Guinée, en venant du Mali aujourd'hui, et la CAN aura lieu à Korogo. C'est d'abord faire en sorte que les gens qui font le taxi, communément ici taxi moto, qu'ils aient d'abord le permis de conduire, qu'ils connaissent le code de la route, qu'ils ne viennent pas tuer des étrangers que nous allons avoir ici. La Côte d'Ivoire a une très bonne image à l'extérieur. Il faudrait que nous puissions préserver cette image-là.
Et cette opération de charme, si chère au premier responsable des transports dans la localité, vient d'entrer depuis peu dans sa phase active au dire de Derasouba Sekou, président des taxis-motos. D'Odiéné.
L'organisation même a déjà commencé avec le directeur des transports. Le permis, il a négocié avec des auto-écoles pour nous faire le permis promo 85 000. Parce que tu ne peux pas être ivre pour conduire un étranger, c'est pour aller salir le nom de ton pays. Cette année, dans cette CAN, nous voulons être des exemples.
Cette exemplarité déjà est en train de se faire sentir, d'où se satisfait-il.
Il faut dire que nous sentons une nette amélioration dans le taux d'accident dans le Dinguélé. Nous sentons aussi une amélioration de comportement.
Quand on sait que la ville de Dinguélé ne compte que seulement 3 taxis, le renforcement du parc auto d'alors s'impose pour une CAN réussie. Bakary Touré Labas, Odiéné, Radio de la Paix.
Sur le continent, l'Afrique du Sud va déployer 3300 membres de l'armée pour lutter contre les activités minières illégales dans le pays, a annoncé ce jeudi le bureau du président Cyril Ramaphosa. Le pays riche en minerais attire des milliers de mineurs clandestins dont les activités perturbent les entreprises du secteur et sont vues par les habitants comme une source de criminalité. Les membres de la Force de défense nationale sud-africaine vont aider la police à mener une opération anticriminalité renforcée contre les activités minière illégale dans toutes les provinces, a déclaré le porte-parole du président Vincent Magwenya. L'opération doit durer jusqu'à avril 2024 et devrait coûter à l'État près de 500 millions de rand, soit 25 millions d'euros. Et puis le terminal du Rafah qui relie la bande de Gaza à l'Égypte a ouvert ce jeudi pour permettre l'évacuation d'étrangers, de binationaux et de blessés bloqués dans le territoire palestinien pilonné par Israël depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. A indiqué un responsable palestinien. Les évacuations débutées le 1er novembre avaient été suspendues pour la seconde fois mercredi en raison du refus d'Israël d'approuver la liste de blessés qui devaient être évacués, transmise par les autorités du Hamas à l'Égypte. Le terminal avait déjà été fermé les 3 et le 4 novembre pour les mêmes raisons. Fin de cette édition, mais avant le rappel des titres. 36 milliards de francs CFA, c'est le budget du ministère d'État, ministère de la fonction publique, adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Et puis l'administratrice des petites entreprises des États-Unis, Isabelle Guzman, a séjourné en terre ivoirienne du 7 au 8 novembre 2023. Au menu de sa visite, expliquer la politique entrepreneuriale des États-Unis en faveur de la Côte d'Ivoire. Et enfin, en Afrique du Sud, le président Ramaphosa a décidé de mobiliser l'armée pour lutter contre les activités minières illégales. Merci à tous et bonne suite des programmes sur votre radio. Dans un court instant, le magazine Santé proposé par Paul-Bénédicte Polou.
Santé pour tous. Santé pour tous.